L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Êtes-vous prêts à aller dans la parole de Dieu ce matin? Amen. Amen. Le thème, comme vous savez, on est dans une série d'enseignements sur la foi. On prêche sur la foi, toute une série sur la foi. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, vous sentez que votre foi est en train de grandir? Amen. Amen. C'est bon. C'est une bonne affaire. Ça m'encourage. C'est ça. On continue dans la série sur la foi, mais aujourd'hui, spécialement, le thème spécifique, c'est la crainte, non pas la crainte, la paix triomphante. Parce que l'ennemi veut qu'on marche dans la crainte, mais Dieu veut qu'on marche dans la paix. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à marcher dans la paix? C'est par la foi. C'est pour ça que c'est dans une série sur la foi. Et ce matin, je vais juste vous inviter à tourner avec moi. On va regarder encore une fois dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Et on va aller au verset 23. Donc, Marc 11, 23. Et juste avant de lire le passage, on va prier pour notre temps dans la parole de Dieu. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous donne ces rémas qu'on a besoin pour grandir, pour aller de l'avant, pour saisir les promesses dans ta parole. Seigneur, aujourd'hui, je te remercie pour ton Saint-Esprit qui est dans cette place, qui nous illumine, qui nous fait comprendre ces révélations qu'on a besoin de recevoir dans nos vies. J'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Moi, ça me bénit de servir le Seigneur parce qu'on sert un Dieu vivant. Vous savez, moi, je ne suis pas intéressé à la religion. Et vous? Ce matin, je me suis réveillé à 7 heures, puis le Seigneur m'a donné un songe en me réveillant. Et j'ai dit ça à mon épouse tout de suite en me réveillant. Je me suis réveillé avec un songe. J'étais en colère. Je me suis dit, c'est quelle sorte de songe? J'étais dans une colère, une sainte colère. Et dans ce songe-là, je ne vous l'expliquerai pas tout, mais qu'est-ce que Dieu m'a montré? C'est qu'on doit prêcher la parole. Et dans mon rêve, c'est qu'on avait mis de côté la parole de Dieu et je me suis réveillé dans cette colère, mais une colère sainte, c'est comme dans nos églises, on a tassé la Bible et Dieu dit, c'est le temps de revenir à la parole de Dieu. Puis ce songe-là, c'est en réponse à une prière. Moi, j'avais prié là, peut-être 2-3 jours, je posais la question au Seigneur puis j'ai eu ma réponse dans ce songe-là. C'était clair comme l'eau de roche. Puis moi, je peux vous dire, ça me soulage d'avoir un Dieu qui me parle. Mais c'est merveilleux, Dieu vous parle aussi, parce que ses brebis entendent sa voix et le suivent. On n'est pas appelé à essayer de découvrir, d'essayer de découvrir la vie victorieuse. Dieu, il y a un plan spécifique pour chacun d'entre nous. Il y a un chemin, si on marche ce chemin-là et on marche avec lui, on va être béni, on va être heureux. Notre famille va être un succès, on va avoir du succès dans notre vie. Et le succès, c'est pas le succès du monde, c'est le succès selon le cœur de Dieu. Ça, c'est ça qui est merveilleux. Donc, si on marche avec le Seigneur, puis on fait à sa tête, pas à la nôtre, on voit vraiment la bénédiction de Dieu qui s'installe. Et moi, je peux vous dire, moi, je suis béni d'être un enfant de Dieu, puis je suis content que le Seigneur est toujours vivant, puis on ne sert pas une religion plate et morte, n'est-ce pas? Ça serait-tu plate à se réunir ici aujourd'hui au nom d'une religion? Moi, je ne me présenterais même pas. Ça vous seriez là tout seul. Ça ne me tente pas. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est la « ainsi parle le Seigneur », c'est que ce que Dieu dit, c'est ça qui compte, c'est ça qui change nos vies, parce que ce que le Seigneur veut pour nous, c'est qu'on soit dans la joie, qu'on vive la vie abondante. Amen, c'est ça qu'il dit. Ben, on va regarder ensemble Marc chapitre 11. On va juste se rappeler un petit peu les principes spirituels de la foi. Et après, on va parler de la crainte. Parce que certainement, si Dieu nous donne le chemin de la victoire par la foi, on sait en même temps que l'ennemi, lui, il veut mettre des obstacles pour nous empêcher d'entrer pleinement dans l'appel de Dieu sur notre vie. Dans Marc 11, 23, il est écrit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen, croyez-vous ça ce matin? Donc, si on dit et si on croit dans notre cœur que les paroles que nous prononçons arrivent, si nous croyons, c'est ça la clé, bien nous allons voir la montagne d'épreuves, la montagne d'incrédulité, peu importe la montagne, nous allons voir des percées dans nos vies. Gloire à Dieu pour ça. Bon, c'est bien beau savoir tout ça, mais maintenant, comprenons que même si on saisit des principes spirituels concernant la foi, l'ennemi veut neutraliser votre foi. Réalisez-vous ça? Vous écoutez un message et pendant que vous écoutez le message, l'ennemi veut voler la parole qui va être semée dans vos cœurs, pour être sûr que vous ne recevrez pas cette révélation pour vous-même afin de vous empêcher de progresser. Réalisez-vous ça ce matin? Oui, il y en a deux. Mais il y a les autres, vous ne réalisez pas? Ah, OK. Si vous êtes réveillé, dites « Amen ». Si vous dormez, dites rien. Amen. Bon, ça c'est bon. Sauf que là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume 27. On va regarder ensemble un passage de la parole de Dieu qui parle comment le Seigneur va faire l'exception pour ses enfants. Vous savez, comme j'ai dit tantôt dans la louange, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. On peut écouter les nouvelles, on peut dire, wow, il y a des tornades, il y a des tremblements de terre, l'économie, un désastre économique, toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va se reposer. On va se reposer dans la paix du Seigneur. Et c'est ça ma position, et je ne bougerai pas. Le shalom de Dieu ou la paix de Dieu, ça veut dire rien de brisé, rien de manquant. Rien de manquant, rien de brisé. S'il n'y a rien de manquant dans vos vies, il n'y a rien de brisé dans vos vies, ça va bien, n'est-ce pas? Il n'y a rien de brisé, rien de manquant, ça c'est le shalom. Shalom, on décrète la paix sur nos têtes. À chaque dimanche à l'église à Victoire, je le décrète sur vos têtes. Le shalom de Dieu, rien de brisé, rien de manquant. On le reçoit par la foi. Dans ma vie, moi, je veux rien de brisé, rien de manquant. Je reçois par la foi cette promesse. On va regarder ensemble maintenant le psaume 27. Et on va voir ici des choses merveilleuses qui vont nous encourager. Ça dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Ça veut dire ma délivrance. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Avez-vous peur du cancer aujourd'hui? Avez-vous peur de l'économie qui s'effondre autour de nous? Est-ce que vous avez peur de toutes sortes de choses aujourd'hui? Mais la Bible nous dit, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien, il me soutient. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Ce n'est pas moi qui tombe. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Dites aucune crainte. Aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Dites plein de confiance. Ça vous fait du bien, ça, le dire. Plein de confiance. Ouais, mais je le ressens pas, pasteur. Mais dites-le, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle et au jour du malheur. Il va avoir un jour du malheur, mais ensuite ça dit, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Amen. Dieu ne veut pas vous descendre, vous abaisser, il veut vous élever sur un rocher. Et il y a la guerre, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais pour vous, il va faire l'exception et il va vous élever. Il va vous protéger. Amen. Parce que vous êtes ses enfants, parce que vous placez votre foi en lui. Amen. Ça, c'est merveilleux. On peut dire, c'est une belle parole, mais savez-vous, cette parole ne portera pas de fruit. Vous ne verrez aucun résultat dans cette parole si vous ne croyez pas cette parole. Parce que c'est juste un texte sur un papier, dans un livre, si vous ne recevez pas cette parole par la foi. On sait que la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Mais si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas voir la vie s'installer dans vos vies. Amen, ça fait du sens, hein? Donc, faut croire. Le chemin de la paix, premièrement, si on veut vraiment bénéficier de la paix, le shalom de Dieu dans nos cœurs, nous devons, premièrement, refuser l'invasion de la crainte dans nos vies. Savez-vous, l'ennemi veut faire cette invasion dans vos cœurs, dans vos pensées. Il veut semer la crainte, la terreur dans vos cœurs, dans vos pensées, tout ça, pour vous empêcher de vivre la vie abondante que Dieu en réserve pour vous et pour vous empêcher de bénéficier des privilèges que nous avons comme enfants de Dieu. Moi, ça me bénit quand j'entends parler, pas ça me bénit d'entendre parler des tornades, mais ça me bénit quand j'entends parler que des tornades qui ont passé, toutes les maisons sont détruites. Mais pour l'enfant de Dieu, sa maison n'a pas été touchée. Sa maison, il n'y a même pas les arbres de cassés chez eux. Ça me bénit. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans les promesses de Dieu. Est-ce que tu es fanatique? Tu crois la Bible à ce point-là? Oui, je suis fanatique. Mais ça marche dans ma vie, puis j'aime ça comme ça. Amen. Une des choses, le chemin de la paix, c'est le refus de la crainte. Parce que la crainte, c'est vraiment l'opposé de la foi. Dieu nous dit de placer notre confiance en lui. Ça, c'est la foi. On s'attend de voir une récolte. Et comme on vient de voir ici, notre foi, c'est une force spirituelle qui peut déplacer les montagnes. Pensez-y. Vous relâchez votre foi, vous confessez de votre bouche et cette montagne disparaît. Peu importe la montagne, mais vous décrétez de votre bouche, la montagne devant moi, elle disparaît au nom de Jésus. Quand vous faites ça, votre force est relâchée et il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. C'est merveilleux. C'est bon ça, n'est-ce pas? Ça, c'est une chose qu'on doit comprendre concernant la foi. Donc, notre foi, c'est une force spirituelle qui va déplacer des montagnes. Mais l'opposé de la foi, c'est la crainte. Au lieu de placer notre confiance dans le Seigneur, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre confiance dans l'ennemi et dans son pouvoir de détruire nos vies. C'est quand on a déplacé notre foi, au lieu de la placer dans le Seigneur Jésus, à ce moment-là, on la place dans les œuvres de Satan. Et là, en fait, c'est une perversion de la foi. Parce que la vraie foi, c'est dans le Seigneur. Donc, c'est vraiment le contraire. Quand vous dites, ben moi, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, en fait, vous êtes en train de dire, je n'ai pas confiance que mon Dieu est assez grand pour me protéger de telle ou telle chose. Mais sûrement, c'est pas ça que vous voulez dire. Vous allez à l'église à la victoire, quand même. Voyons donc, vous voulez pas dire ça. Donc, est-ce qu'on devrait parler comme ça et dire, moi, j'ai peur de ci, moi, j'ai peur de ça? Amen. Non, on devrait pas. Pour ceux qui ne savaient pas. On ne veut pas parler la crainte. Parce que dans Philippiens 4, 6 à 8, on a vu ça les deux autres fois, puis je pense que ça veut encore qu'on regarde ce texte-là. Philippiens 4, 6 à 8. Aujourd'hui, si vous dites, ben moi j'en ai plein de craintes dans mon cœur, j'ai plein de craintes, des inquiétudes, tout ça, ne vous inquiétez de rien, parce qu'avant de sortir de cette place, vous pouvez être libéré de toute crainte. Absolument. Vous allez sortir là, une fois dans votre vie, vous dire, ah, j'ai plus peur de rien, je suis super béni, content, heureux. Ça, c'est vous autres à la fin de la réunion. Restez jusqu'à la fin, là. Dans Philippiens 4, 6 à 8, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est un commandement, c'est pas une suggestion. Si ça vous tente, si l'économie va bien, si vos enfants vont bien, si tout est beau autour de vous, ne vous inquiétez de rien. Non, ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu, remarquez, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça fait même pas de sens, il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça fait pas de sens, humainement parlant, ça ne fait pas de sens, mais divinement, ça fait du sens. Parce qu'on place notre confiance dans le Seigneur Jésus, peu importe qu'est-ce qui se passe dans le monde, moi, je marche dans la paix, puis il n'y a aucune journée où Dieu a prévu où je marcherai dans la crainte. Aucune journée, il a dit, cette journée-là, je prévois que mon enfant va avoir des maux d'estomac, il va avoir un mal de tête, il va être tout à l'envers, bouleversé par la crainte et l'inquiétude. Il n'y a aucune journée comme ça prévue dans le plan de Dieu pour ma vie. Aucune journée comme ça. Donc, si Dieu ne prévoit pas ça pour moi, son chouchou, pourquoi je devrais aller là-dedans et me laisser faire, me laisser voler ma joie, laisser voler ma paix? Certainement pas. OK? Donc, on ne veut pas faire ça. La crainte, en passant, c'est comme un rhume. C'est contagieux. C'est contagieux. Comme on va éternuer, atchoum! Et là, on donne les microbes à tout le monde. La crainte, c'est comme ça. Et la façon qu'on propage la crainte, c'est par nos paroles. Une situation terrible, et là, on commence à croire plus les circonstances adverses au lieu de croire la parole de Dieu. Et là, on commence à parler le négatif, on parle du terre à terre, les choses humaines, juste comme ça. Et là, on commence à s'inquiéter, on en parle à droite, à gauche. Et là, notre crainte va influencer les autres, et les autres vont commencer à dire, « Ouais, c'est vrai, oh, qu'est-ce qu'on va faire? » Et là, on commence à s'inquiéter, puis on a peur. C'est contagieux. Donc, si vous ne voulez pas rendre les autres malades par la maladie de la crainte, là, ne parlez pas votre crainte. Amen. Ce qu'on va faire, on va parler d'un homme, qui était quand même merveilleux, un homme de Dieu. Son nom est Job. On va regarder ensemble son histoire dans la parole de Dieu. Ça va vous aider, je pense, à comprendre la dimension de la crainte. Par la suite, on va voir vraiment que Dieu a un plan pour nous, pour qu'on puisse marcher sans la crainte. C'est pas pour des Superman spirituels. On n'a pas besoin d'être des super-héros. On a juste besoin de prendre une décision. Moi, je refuse la crainte et vous allez voir l'invasion de la paix dans vos vies. Amen. Si on regarde ensemble dans Job, je vais lire le texte. C'est assez long, mais vous êtes tous bien réveillés. Vos pensées sont toutes ici. Donc, je vais lire Job, chapitre 1. Et on va avoir du bon temps ensemble. Et après ça, vous allez dire, wow, c'est merveilleux. Je ne veux plus jamais craindre. Job, chapitre 1, verset 1. Il est écrit... Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Est-ce que c'est bien ça? Absolument. Verset 2. Il eut naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Voyez-vous comment Dieu avait béni Job. C'est un homme béni, n'est-ce pas? Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Remarquez le verset 5. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job, qui aimait Dieu, qui avait un bon cœur pour le Seigneur, il avait des craintes. Je vais faire des sacrifices de peur. Si jamais ils ont fait un péché, je vais faire des sacrifices de peur. Donc, c'était bien de faire des sacrifices, mais la motivation était une crainte. Il y avait peur. Il y avait peur d'un coup si mes enfants font ci ou ça. On va au verset 6. Or, les fils de David vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est pas pour rien, voyons ce qu'il dit. Verset 10, ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous comprenez ici? Satan est en train de le mettre au défi. La seule raison pourquoi il t'aime, lui, c'est parce que tu le bénis. Mais si tu enlèves ses bénédictions, tu vas voir, il va te maudire en pleine face. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes encore réveillés? Je continue. Verset 13, « Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs laboraient et les ânes pesaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, il les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Verset 17, il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Ah, c'est pas très, très, très encourageant si vous étiez Job, hein? Ça va pas bien, là. Verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre et se prosternant et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Bon, c'est un gros passage qu'on a lu, c'est long. Je l'ai lu dans Louis II. Est-ce qu'on peut aller dans d'autres versions maintenant? Moi, j'aime ça, comparer des choses. Ça fait tellement du bien. Dans la Bible du Sommeur, on lit verset 12. Au lieu de dire, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce que tout ce qui lui appartient, je te le livre. Ça, c'est une fausse traduction, enfant de Dieu. Savez-vous comment c'est traduit quand on va dans l'hébreu? Alors, l'Éternel dit à Satan, tous ses biens sont en ton pouvoir. Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Et dans Job 2:6, où on va lire plus tard, je ne lirai pas, mais vous pourrez voir, Satan a frappé Job avec des ulcères, il a attaqué son corps physiquement. Job est tombé sérieusement malade. Quand Dieu a donné la permission dans Job 2:6. En fait, ce qu'il a dit, il est en ton pouvoir. Savez-vous, qu'est-ce qui s'était passé? À cause de la crainte de Job dans sa vie, la muraille de protection, la muraille de la foi avait tombé, et là, il était dans le pouvoir de Satan. Quand nous sommes en dehors de la foi, nous ne pouvons pas bénéficier de la protection divine, enfant de Dieu. Les gens ont pris le livre de Job pour nous enseigner comment Dieu veut que nos enfants meurent dans des accidents, dans des tornades, que le feu tombe du ciel, tue nos enfants, qu'on perde toute notre propriété, qu'on soit malade, et que voilà, c'est la volonté de Dieu. On a pris Job et on a perverti le message de Job. Ce qu'on est censé comprendre ici, c'est qu'il y a deux forces qui opèrent dans le monde, la foi et la crainte. Si on est dans le camp de la foi, Dieu a promis un héritage de protection. Dieu nous promet, il nous fait des promesses. C'est soit qu'on croit ces promesses ou on ne croit pas. Mais si vous croyez, Dieu a dit, je vais vous protéger. Mais quand on embarque dans le camp du doute et de la crainte, ce qui se passe, c'est que légalement, Satan a l'autorité de venir nous voler, nous égorger, nous détruire. Parce qu'on est dans le mauvais camp. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Faut demeurer toujours dans la foi. Amen. Amen. Et là, vous dites, ben, j'ai jamais entendu ça, pasteur. Je suis pas sûr que je suis d'accord avec toi. Je suis content que vous m'avez dit ça. Parce qu'on va aller ensemble dans Job 3, verset 25. Job a lui-même dit, dans Job 3, 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Voyez-vous, justement, il le dit lui-même ici. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si vous avez peur de ci, peur de ça, vous ouvrez la porte à ce que cette chose-là arrive dans vos vies. Est-ce que vous voulez recevoir vos craintes, le fruit de vos craintes? Non! Donc, on ne devrait pas permettre à ces craintes d'être dans nos cœurs. Une des choses, au verset 22 du premier chapitre, c'est dit, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Ici, là, dans la Bible, justement, on lit, au milieu de tous ces malheurs, Job ne pécha point. Même s'il vivait toutes ces choses-là, même s'il ne comprenait pas encore, il n'attribuait pas la faute à Dieu. C'est ça que ça vient de nous dire dans ce texte-là. Il n'attribuait pas à Dieu cette faute. Et on voit qui était responsable des horreurs qu'a vécu notre pauvre Job. On voit ici, c'était Satan. On le voit dans le texte, dans verset 4 du deuxième chapitre, ça dit, Satan répondit, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, au verset 5, touche à ses os et à sa chair. Je suis ceux qui te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, il est entre tes mains, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel et il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson ce fragment d'un pot cassé pour se gratter et s'assit dans la cendre. Non, c'est pas le cœur de Dieu pour ses enfants. Avez-vous de la misère à croire que Dieu est bon et que Dieu ne veut pas ça pour ses enfants? Si vous avez de la misère aujourd'hui de changer votre compréhension du livre de Job, bien aujourd'hui, je veux vous mettre au défi. Admettons, vous avez des enfants. Est-ce que vous souhaitez le mal à vos enfants? Non. Moi, j'ai deux petites filles. Moi, j'aime mes deux petites filles. Est-ce que je vais vouloir leur donner un cancer pour leur enseigner quelque chose? Non. Est-ce que je vais dire, ben, t'es pas mal désobéissante, je pense que tu mérites un accident d'auto. T'as besoin d'apprendre quelque chose comme ça. Non. T'es pas mal désobéissante, va-t'en en remise, on va prier que le feu du ciel tombe sur la remise. On dit, ben ça fait pas de sens pour nous. Mais la tradition religieuse nous dit que Dieu, le bon Dieu est méchant et Dieu fait des mauvaises choses comme ça. Vous allez découvrir, quand on lit l'Ancien Testament et à chaque fois que nous lisons que Dieu fait ceci, Dieu fait cela, nous comprenons que le Verbe, c'est toujours en permission. Dieu a permis des choses. Comme Dieu permet que les gens s'en aillent en enfer. Mais est-ce que c'est sa volonté que les gens s'en aillent en enfer? Non! Il a tout fait pour qu'on puisse aller au ciel. Il dit, c'est gratuit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, moi je vais vous donner des mets succulents, je vais vous pardonner. Puis en fait, ceux qui vont au ciel, savez-vous, c'est qui va au ciel? C'est les pardonner, tout simplement. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est simplement parce qu'on a dit, Seigneur, je réalise, je suis imparfait, pardonne-moi s'il vous plaît. Et à ce moment-là, Dieu dit, parfait, je te pardonne, et là, je suis en route pour le ciel. C'est comme ça que ça marche. Là, ici, on a vu simplement l'histoire de Job qu'on a dû examiner pendant un temps. Là, vous allez dire, ben ok, je comprends, faut pas être gouverné par la crainte, par un esprit de crainte, je comprends ça, mais c'est normal, des fois, quand même, de s'inquiéter un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui pensent comme ça? Je m'inquiète un petit peu, des fois, là, telle affaire. Financièrement, je regardais mes choses, mes paiements, je ne savais pas comment, j'étais pas arrivé. Dieu me comprend, il va dire, c'est correct, tu peux t'inquiéter un petit peu, là. Mes enfants ne s'en vont pas dans la bonne direction. Je peux m'inquiéter de mes enfants. L'inquiétude, voyez-vous, il y a une différence entre être concerné et être inquiet. On peut être concerné. Quand on est concerné, on demeure dans la foi. Puis je dis, ben moi, je suis concerné, mes enfants ne sont pas dans la bonne direction, ou il y a telle chose négative. Puisque je suis concerné, je vais prier maintenant pour cette chose et je vais relâcher ma foi dans le Seigneur pour que Dieu intervienne. Il y a une différence entre être concerné. Admettons, vos enfants, bon, l'autre jour, ben je pense que c'était hier, ma petite Floramie, supposément, était partie dans le bois, puis là, on ne la trouvait pas. Bon, ben là, je peux soit dire, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fin du monde. Ou dire, OK, je suis concerné, c'est important. Si mon enfant disparaît, je vais être concerné. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être prier, mais qu'est-ce qu'on a fait? J'avais même pas besoin de prier. Quelqu'un m'a dit, je pense qu'il est dans le sous-sol. Ah, OK. Descends les escaliers. Et là, bon, gloire à Dieu. Hein? C'est des fois, on n'a même pas besoin de prier. Mais voilà, mais on peut être concerné dans la foi. Voyez-vous, il y a une différence. Parce qu'on n'est pas somnambule. Hein, on n'est pas somnambule, puis on a la tête au ciel. Oui, on peut avoir la pensée céleste, mais on vit encore sur la terre. Donc, Dieu nous appelle à être responsable, penser à nos choses, prier pour les problèmes qui sont là, pour voir sa gloire. Mais quand on rentre dans la dimension de l'inquiétude, on est en train de commettre un péché. Ah, oui, parce qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est pas une suggestion, c'est un commandement. Parce que Dieu veut s'assurer qu'on reste béni. Il ne veut pas que cette muraille de protection soit craquée et que l'ennemi dise « Ah, ah, moi je peux rentrer parce qu'il ne fait plus confiance. » Alors, moi, ce que je fais, je garde cette muraille fermée par la foi en Jésus. Puis je dis « Moi, je mets toute ma foi en lui. Je sais qu'il est capable de m'emmener jusqu'au bon port. » Amen. Et j'ai appris une leçon de Job qui a vécu plein d'épreuves. Mais gloire à Dieu, il n'a pas renié Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a béni à la suite. On a vu vraiment la bénédiction du Seigneur revenir dans sa vie, même s'il ne comprenait pas les raisons pour que tout se passait. Amen. Vous êtes encore avec moi? Donc, on ne veut jamais s'inquiéter. S'il y avait une raison de s'inquiéter, si on pense dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 40, on pense aux disciples qui étaient dans le bateau, qui étaient pour s'écouler. Ils sont là, « Hey, maître, là, tu réalises pas, on est en train de faire un naufrage, on est en train de s'écouler ici, là, il y a plein d'eau qui rentre dans le bateau, t'es pas inquiet un petit peu pour nous? » Et au verset 38, ils disent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de nous, que nous périssions? » Verset 39, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent, c'est ça. Il y a un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Voyez-vous, si des fois, il y a des bonnes raisons d'avoir peur, je pense que quand on est sur le bord de la mort, c'est un bon temps, n'est-ce pas? Mais même à ce moment-là, Dieu dit, « Non, ne crains pas! » Hey, il y a un autre temps. Admettons, même quelqu'un est mort. Moi, je trouve ça assez bénissant. Dans Marc 5, 35 à 43, ici, vous connaissez l'histoire de Jaïrus et sa fille. Avez-vous le temps encore un matin? Vous avez encore quelques minutes? Vous n'êtes pas trop fatigué, là? OK, on va lire ça ensemble. Comme il parlait encore, Marc 5, 35 à 43. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue Jaïrus des gens qui disent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. » Et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante. Y en as-tu des chialeux dans la vie? Des gens qui sont bruyants, ils vont parler le doute, ils vont parler la crainte, ils vont pleurer. Il y avait une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Ça, c'était des obstacles. Il entrait et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? » Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Voyez, Jésus, lui, connaissait des principes. Jésus, il savait qu'on ne parle pas toujours la réalité, on parle la vérité. Il se moquait de lui, alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi, ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ça, c'est merveilleux de savoir que malgré qu'il y avait une situation vraiment triste, terrible, Jésus a dit « Ne crains pas ». Si on était dans la crainte, c'est impossible que le miracle se produise. La crainte, c'est l'opposé de la foi. Pour voir le miracle, il faut être dans la foi. Donc, moi, un extrémiste, moi, j'ai décidé, je vais croire Dieu peu importe les circonstances, les situations dans ma vie. Je veux croire Dieu à chaque moment de ma vie, en me réveillant le matin, en me couchant le soir, pendant le jour. Je veux croire Dieu en tout moment et marcher dans sa pleine bénédiction. Amen. Il y en a certains d'entre vous, vous dites, ben, moi aussi, tant qu'à y être. Ça coûte pas plus cher. Vous faites un vieux chrétien religieux que ça donne rien. Vous avez dit, bon, mais moi, je suis un vieux chrétien religieux. Ça fait 25 ans que je suis chrétien, puis j'ai jamais cru de même, là. Ben, continuez comme ça. Vous pouvez continuer comme ça. Vous pouvez continuer endetté. Qui veut rester endetté? Vous pouvez continuer malade. Vous pouvez continuer dépressif. Vous avez le droit de rester comme vous êtes et rentrer au ciel quand même. Parce que Dieu vous aime comme vous êtes. Il vous aime avec vos bobos. Il vous aime avec vos dettes. Il vous aime avec votre mauvais caractère. Il vous aime comme vous êtes dans tous vos problèmes. N'est-ce pas merveilleux? Mais si ça vous tente de vous en débarrasser, il va vous aimer aussi avec toute la liberté qu'il veut pour vous. Vous savez, moi, j'aime mieux croire la Bible et dire, « Ah, c'est écrit, c'est pour moi, moi je veux vivre ça, et gloire à Dieu, on le vit. » Depuis qu'on est marié, depuis que je suis sur cette planète, j'ai vu mes parents marcher avec Dieu, ils m'ont dit, « Regarde, ça c'est le chemin à suivre, marche dans ce chemin-là, tu vas être heureux. » Mais il y en a qui disent, « Ouais, ben moi j'aime mieux faire un détour, je vais goûter à certaines choses. » Mais quand on prend un détour, on est en train de manquer les bénédictions que Dieu a en réserve sur le chemin. C'est, en réalité, on se fait voler les bénédictions de Dieu quand on fait à notre tête. Donc, on est mieux de pas faire notre tête, on est mieux de suivre la tête. Puis quand lui dit, « Fais ça », on dit, « Oui, papa. » Et là, on embarque dans la bénédiction. Puis c'est merveilleux, nos vies changent, c'est super. Donc, là, ce matin, là, si on dit, OK, moi là, je veux faire comme ça, moi aussi là, je veux marcher dans la foi vraiment, je veux bannir la crainte de ma vie. Est-ce qu'il y en a ici aujourd'hui, vous dites, ben là, je suis prêt à faire du ménage puis bannir la crainte de ma vie. Montrez-moi là en applaudissant Seigneur. Ceux qui sont prêts. Bon, c'est bon. OK, c'est bon. Sauf que là, vous venez de dire avec vos mains, moi, je tasse la crainte de ma vie et j'accepte juste marcher dans la foi. Ça, c'est bon là. OK. Là, on va aller dans un autre texte. Jérémie 17, versets 5 à 8. La source essentielle, si vous voulez y arriver, si vous voulez vraiment marcher dans la foi, votre foi, nous avons tous une mesure de foi. Comme j'ai dit les autres semaines, il y en a qui placent leur foi dans l'horoscope, d'autres c'est l'occultisme, le nouvel âge, les autres, il y en a qui placent leur foi dans Oprah Winfrey, il y en a qui ont placé leur foi dans Obama, puis ont été sérieusement déçus, il y en a d'autres qui ont placé leur foi dans plein de choses. Ils placent leur foi dans quelque chose ou quelqu'un. Mais, si on place notre foi dans le Seigneur, on va voir toujours que le Seigneur dit vrai et que Dieu il dit toujours selon sa parole. Jérémie 17, 5 à 8, dans la Bible du Sommeur, il est écrit. Voici ce que je déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Heureusement, vous n'avez jamais fait des moyens humains la source de votre force, vous, hein? Des moyens humains? La source de votre force? Ben moi, là, je suis correct parce que j'ai une bonne job. J'ai une bonne job, j'ai de la sécurité. J'ai une sécurité en autant que je rentre travailler, ma job va prendre soin de moi. Si, là, pendant la récession, votre employeur fait faillite, mais si votre job, si c'est Bell Canada, votre employeur, votre source vient de mourir, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous inquiéter. Vous allez avoir peur parce que vous venez de perdre votre source. Je vais vous donner un petit témoignage. Est-ce que j'ai le droit? Pas trop fatigué, là. Moi, une des choses, on était à la télévision à Ottawa pendant un temps. Et pendant un temps, on était bénis. J'avais un bel emploi, un beau salaire stable. Un beau salaire stable. Belle maison, deux autos dans la cour. On est bénis. Semblerait-il, on est bénis. Dans mon cœur, ça me disait... Non, c'est temps de passer à d'autres choses. Le Seigneur dépose dans mon cœur, c'est temps de passer à d'autres choses. En fait, le Seigneur m'appelait à venir implanter l'Église ici. Puis je disais ça à Mathieu, on parle ensemble. Dans mon cœur, c'est temps de passer à d'autres choses. Puis là, Mathilde était tout à fait d'accord avec moi. J'ai quitté mon emploi. Puis là, il y en a qui ont dit, ben là, allez ouvrir une église comme ça. Qu'est-ce qui dit que tu vas pouvoir vivre? Là, tu pars d'une bonne job, t'es bien payé, là. Du monde normal, il quitte pas des bonnes jobs, n'est-ce pas? Mais du monde anormal comme moi, oui, à fond. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon cœur, ça me disait, c'est le temps. Par la suite, moi, je ne savais pas, mais j'ai fait la dernière saison de télévision de cette émission-là. Quand je suis parti, l'émission, ils ont cessé de passer sur l'antenne de la télévision. Et tout d'un coup, il n'y avait plus les moyens. Quand on n'est plus à TV, ben on a moins de revenus, évidemment. Il n'y avait plus les revenus pour payer les employés. Tout le monde avec qui je travaillais, presque tout le monde, ont été congédiés, ils ont perdu leur emploi. Si c'était cette émission de TV-là qui était ma source, j'aurais perdu ma source. Parce que je perdais mon emploi. Mais heureusement, c'est jamais une station de TV qui a été ma source, ça a toujours été Dieu. Dieu est ma source. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Quand c'est le temps de partir, Dieu dit c'est le temps, on dit oui papa, on suit le Seigneur. Là, on vend notre maison, pas de problème, on part pas dans une crise, une situation difficile, on fait juste suivre le Seigneur. On arrive, on achète la maison qu'on veut, à Bromont, dans la ville qu'on veut, on est béni, on implante l'église qu'on veut, avec le monde qu'on a. Avec vous tous, là, on a tous sélectionné dans la prière ceux qu'on voulait, là. Non, c'est une joke. Mais on a laissé Saint-Esprit faire le recrutement. Mais tout ça pour vous dire, on a suivi Dieu, puis après on découvre, ah, si on avait resté avec la sécurité, avec la belle job, la belle maison, tout le kit, on aurait tout perdu. Mais gloire à Dieu, Dieu, il prend soin de ses enfants. Si Dieu est votre source, Dieu va prendre soin de vous. Hey, je vais donner un autre témoignage, puis il y en a que vous l'avez déjà entendu, puis ça me dérange pas, je vais le dire encore. Ben, je pense que c'est bon, il y a des gens qui l'ont jamais entendu. Quand on a quitté l'emploi là-bas, il y en a qui ont dit, mais là, comment tu vas faire? Tu quittes au mois de juin, puis là, il faut ouvrir l'église au mois de septembre. Comment tu vas faire et vivre tout l'été comme ça, là, pas de salaire? Et moi, simple d'esprit comme je suis, j'avais même jamais pensé à ça. Vous avez dit, il est simple, en titi, notre pasteur. Mais j'avais même pas pensé. Parce que pour moi, Dieu est ma source, Dieu m'a dit de le faire. Il va prendre soin de moi, là. Ça a toujours été le cas. Je quitte mon emploi, un bon salaire. Et là, je dis, ben, merci Seigneur Dieu, tu es notre source. Je m'attends à la provision. Qu'est-ce qui s'est passé? Zéro crainte. Et j'ai pas parlé avec mes parents pour dire, écoute, ben, vous savez, on n'a plus de salaire, hein. Priez pour nous. Priez. J'appelle mon oncle, ma tante. Vous savez, priez pour nous. On est dans la foi, là. On vit par la foi. Avez-vous déjà entendu des gens dire, on vit par la foi, mais c'est le doute au max. Puis ils vont en parler à droite, à gauche, parce qu'ils ont peut-être l'espoir, quelqu'un va avoir pitié de nous autres, on crève de faim. Non, non, non. Mais si vous êtes dans la foi, vous ne le dites à personne. Vous dites à Dieu, Seigneur, tu es ma source, je m'attends que tu vas entreprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais sur mon site web qui, avant, j'avais des gros 25$ par année de dons. Wow, c'est impressionnant, 25$. Ça, c'est tout un coussin, là, vraiment impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais sur le site web, tout d'un coup, 2 semaines de salaire qui rentraient en dons. Gloire à Dieu. On le dépense au complet. Seigneur, tu es notre source, merci. Retournais sur le site web, un autre 2 semaines de salaire qui rentre. Gloire à Dieu. Là, je disais, Seigneur, on l'a dépensé encore. Merci Seigneur, tu es notre source. On reçoit du ciel. On reçoit l'argent qu'on a besoin. Qu'est-ce qui se passait? On allait dans une conférence comme spectateur, comme dans l'auditoire. Quelqu'un qui me dit, hey, Joël Spinks, t'es rendu à ton compte maintenant? J'ai dit, bon oui, on est en plein ministère. Le Seigneur m'a dit de t'écrire un chèque. Un chèque de 1000$. Ah, ben gloire à Dieu. On fait quand même une bonne semaine avec ça. Là après, je reçois. Là, je m'en vais chanter à Oujibougoumou. J'allais chanter à Oujibougoumou. Et à Oujibougoumou, j'ai reçu pour 1 mois de salaire, dans une fin de semaine. Vous savez, si j'avais entré dans la dimension de la crainte, là, j'aurais pu dire, comment qu'on va faire? Mais non, 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 on s'inquiète pas. Dieu est notre source. Après, il y a quelqu'un qui est mort. Dieu savait que la personne était pour mourir et que j'étais pour chanter au funéraire et que j'aurais un honoraire et que je vivrais de ça. Toutes les semaines, chaque semaine, jusqu'à temps qu'on ait ouvert l'église, Dieu a entrepris surnaturellement pour nos finances. Moi, je refuse absolument 100% de m'inquiéter. Je refuse l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un péché. Moi, je veux pas ce péché-là dans ma vie. Si vous vous permettez le luxe de vivre dans le péché, là, vous dites, ben, c'est pas un vrai péché, pasteur. Oui, c'est aussi vrai que n'importe quel autre péché. Parce que vous cessez de mettre votre foi en Dieu. Mais si vous mettez votre foi en Dieu, vous savez, je vais dire une autre chose. Quand on a engagé pasteur Jean, humainement parlant, là, il y en a qui ont peut-être dit, ben, il faudrait peut-être attendre un petit peu. Mais quand le Saint-Esprit dit non, c'est le temps, savez-vous, on dit oui, papa. Le moment qu'on l'a annoncé, les revenus étaient comme ça. Mais quand on a annoncé, les revenus ont fait ça pour être capable de le payer. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Si on ne marche pas par la foi, si on marche par des calculs humains, on va être limité. Mais Dieu nous appelle à marcher par la foi. Ça ne veut pas dire qu'on est des insensés, puis on essaie de faire des choses, comme demain matin, je vais acheter un jet privé. Ah, j'ai à cœur de... Non, 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 non. On va faire ce que Dieu me dit de faire. Quand Dieu dit « fais ça », on dit « oui ». C'est juste ça qu'on a à faire. Notre responsabilité, c'est d'écouter ce que Dieu dit, puis après on dit oui, Dieu entreprend toujours, parce que pour la vision, Dieu donne une provision. Comprenez-vous? Avec la vision que Dieu vous donne pour votre vie, qui vous révèle tout ça, il va toujours avoir la provision qui est là, donc on ne devrait jamais s'inquiéter. Alors, il y a tellement d'autres histoires que j'ai vécues, on pourrait en raconter, puis je vais arrêter parce qu'il faut que je prêche la parole. Mais juste vous dire, il y a tellement d'affaires. Moi, quand je vois des chrétiens qui s'inquiètent, qui sont tristes, qui vivent des fardeaux, puis j'aimerais ça les brasser, puis dire, crois Dieu, sa parole, il y a des promesses, faut que tu saisisses, faut que tu dises, oui, c'est pour moi ça, ces promesses-là. Parce que je le sais que ça marche, les promesses de Dieu, il dit toujours vrai. Toujours! Il n'est jamais menteur. Mettez-vous ça dans la tête. Dieu, c'est pas un homme pour mentir. Il ne ment jamais. C'est pas un menteur. Croyez-vous ça aujourd'hui? Bon. Super. OK. Là, on a dit, faut pas avoir des moyens humains. OK. Je continue avec le même texte. Jérémie 17, verset 6. Il est comme un buisson dans le désert. Celui qui est maudit, là. Il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Mais verset 7, ça dit, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien. » Lorsqu'il vient la chaleur, il fait chaud, qu'est-ce qu'on va mourir? Non, il y a de l'air climatisé pour toi. Ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Ça, c'est pour moi. Peut-être c'est pour vous, peut-être. Peut-être c'est pour vous, si vous dites oui. Mais c'est pour moi, en tout cas. Moi, je suis décidé, c'est pour moi. Moi, je veux être cet arbre-là, près d'un courant d'eau. Puis peu importe s'il fait chaud, qu'il fait froid, moi, c'est des belles feuilles vertes. Puis je porte toujours du fruit, toujours du fruit. C'est pas ça que c'est écrit. Il ne cesse. Ah, c'est pas toujours. Il ne cesse de produire du fruit. OK, bon, ben là, c'est très bien tout ça, là. Mais il faut trouver l'armement essentiel. Et l'armement essentiel pour vivre cette foi sans crainte, c'est absolument croire sa parole et notre séparation du monde, du système mondain. Il y a un système mondain où on habite sur la planète Terre, si vous avez remarqué. Sur la planète, il y a toutes sortes de choses difficiles. Avez-vous remarqué ça? Depuis que vous êtes ici, il y a des choses difficiles. On peut écouter la télévision, écouter les nouvelles. J'écoute ça. Moi, j'aime ça écouter les nouvelles. C'est pas mal la seule chose. Vous pourrez demander à ma femme. La seule chose que j'écoute à la télévision, c'est les nouvelles. J'aime ça être au courant de ce qui se passe sur la planète. Puis elle dit, on n'a pas besoin d'autres postes. Ça serait juste ça, ça serait suffisant, mais c'est vrai. Mais on a des enfants, donc il faut avoir des petits postes d'enfants. Donc, ça coûte plus cher. C'était très important que vous partagiez ça, je sais. Écrivez ça dans vos notes. Je sais que vous avez besoin de cette note-là. OK, je continue. Là, écoutez bien. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour vous, dans Jean 17, 14 à 17. Il est écrit, Jésus dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il y a du mal sur la planète, mais Jésus disait que tu les préserves. « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les, mets-les à part. » Comment les mettre à part? Par ta vérité, en passant, ta parole est la vérité. On doit être sanctifié, mis à part par la parole de Dieu, pour la parole de Dieu, pour vivre la parole de Dieu. Galates 1:4 se dit, « Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père. » Dieu, là, il veut pas qu'on passe avec le restant des gens qui vivent toutes les horreurs. Il y a des horreurs qui s'en viennent, faut pas s'en cacher. Moi, je me souviens, j'ai grandi toute ma vie dans l'Église, j'ai toujours entendu parler des choses de la fin. Qu'est-ce qui se passerait dans le temps de la fin? Il y aurait des tremblements de terre, il y aurait ci, puis il y aurait ça. Il y a plein de choses. Toute ma vie, j'ai entendu ça. J'écoute les nouvelles, puis je dis, ah, prophétie qui s'accomplit. Je vois toutes ces choses-là défiler. Ça me surprend pas. Dieu l'avait dit. Mais pour moi, est-ce que j'ai la crainte? Non, j'ai pas de crainte. Puis je dis, wow, si Dieu a dit que ça l'arriverait, en même temps, il a dit qu'il me protégerait, qu'il m'arracherait du mal, qu'il me protégerait, qu'il ferait l'exception pour moi. Merveilleux, c'est merveilleux ça. Bon, qu'est-ce qui nous garde en dehors du système de Dieu? Il y a un système du monde. On peut rester dans le système du monde puis vivre comme le reste. Mais il y a des choses qui nous gardent en dehors de ce système-là ou le système de Dieu. Qui veut être dans le système de Dieu à place? Moi, je vais être dans le système de Dieu. OK, je vais vous montrer comment faire. Faut bannir la tradition de nos vies, les mauvaises traditions. Dans Marc 7, 13, puis je finis bientôt, là, Marc 7, 13, ça dit, « Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Si vous entendez la parole de Dieu prêcher, mais c'est juste des traditions, c'est juste des choses pas vraiment bibliques, toutes les raisons pourquoi vous ne pouvez pas recevoir la parole de Dieu et les promesses de Dieu, bien, la tradition des hommes va annuler la Bible. Les promesses sont là, mais la tradition dit, ce n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. C'est ça que ça fait la tradition. Moi, je dis, j'enlève la tradition, c'est pour moi, Dieu le dit. Amen. Une autre chose, la confusion au sujet du caractère de Dieu. On a dit que Dieu est bon, il faut croire qu'il fait des bonnes choses. Dieu est bon, il fait des bonnes choses. Est-ce que ça fait du sens, ça? Le bon Dieu est bon. On le dit souvent ici, il faut le redire encore, parce qu'on va dire constamment au Québec, les gens pensent que le bon Dieu est mauvais. C'est ça, les gens pensent qu'il est mauvais. Le bon Dieu est bon. Moi, j'ai enseigné ça à mes enfants, il y avait 2-3 ans, j'ai dit, c'est qui vient voler, gorger, détruire? C'est le diable. C'est qui vient nous donner la vie en abondance? C'est Jésus. Ben oui. C'est qui est bon? Jésus ou le diable? C'est Jésus. Bon, ben c'est ça. C'est ça que ça, c'est même que ça marche. C'est pas compliqué. Jésus est bon, le diable il est méchant. Hey, ça prend un degré de théologie. C'est une même. Faut discerner. Qu'est-ce qui est mauvais? Ça vient du diable. Qu'est-ce qui vient vous voler, vous égorger, vous détruire? Comme Job, il est là. Il est couché à terre, puis il se gratte les ulcères, tout le kit, là, avec des peaux cassées. Est-ce que ça, c'est le travail du bon papa? Ben non, voyons. Mais pourquoi qu'on croit des affaires de même? Moi, ça me tape ses nerfs, ça, des affaires de même. Non, mais sérieusement, mais pourquoi qu'on accuse le bon Dieu? Puis on dit, t'es bon, mais regarde qu'est-ce que tu fais. Moi, là, j'en veux pas un Dieu de même, un Dieu méchant qui donne des ulcères. J'aime pas ça, les ulcères. Est-ce qu'il y en a ici qui vous aimez ça, des ulcères? Non, il dit que tout don parfait vient du Père de toutes les lumières, où il n'y a pas de variation. Dieu, genre 1:17, ça nous dit que Dieu est bon. Il fait des bonnes choses. Ça fait du sens, mais religieusement, traditionnellement, ça ne fait pas de sens. OK. Là, une des choses, il faut faire attention. Quand on écoute un message prêché, il faut voir si on est bel et bien enseigné la parole selon le cœur de Dieu. 2 Timothée 2:15, ça dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole, la vérité. » Si on peut bien dispenser avec droiture la parole de Dieu, est-ce qu'on peut l'enseigner tout croche? Oui. Ça veut dire qu'on peut l'enseigner tout croche si on veut. Je peux vous enseigner plein de fossés si je voulais. Mais Dieu me dit de l'enseigner avec droiture. Ça veut dire des fois on entend des choses, pas parce qu'on a une Bible qu'on va l'enseigner avec droiture. Ça veut dire un des critères, faut étudier la parole. Et si je lis maintenant dans 2 Timothée 2:15 dans Bible du Sommeur, ça dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » C'est ça que Dieu veut pour vous, enfants de Dieu. La parole de la vérité, faut bien la recevoir dans nos cœurs. Ça fait du sens? Amen. Bon, une des choses, il y a des choses qui se passent dans le monde que Dieu permet, puis je prendrai pas le temps de le lire parce que ça prend trop de temps, mais Galates 6, 7 à 9, ça nous parle d'une loi des semences et des récoltes. Si vous semez dans la chair, la Bible nous dit que vous allez récolter de la chair la corruption. La corruption, en passant, c'est pas bon. OK? Vous semez dans la chair, vous semez dans le péché, vous récoltez la maladie, vous récoltez toutes sortes de choses atroces dans vos vies. Ce n'est pas bon. Dieu le permet. Dieu a permis Adolf Hitler. Savez-vous ça? Dieu a permis plein d'affaires parce qu'il y a un plan. Il dit, embarquez dans mon plan, vous allez recevoir la protection. Mais si on marche en dehors de son plan, il y a toutes sortes de choses terribles qui arrivent. Puis c'est juste simplement que Dieu permet les hommes faire qu'est-ce qu'ils veulent. Et quand Dieu va venir instaurer son royaume, il va dire, OK, vous avez eu votre tour. Maintenant, voyez comment les choses vont fonctionner. Et Dieu va instaurer la paix éternelle qui va durer éternellement. Présentement, on vit sur la terre, puis il y a toutes sortes de problèmes. Mais une des choses, les semences et les récoltes. Une autre chose, Ésaïe 54, verset 15, ça dit, si l'on forme des complots, OK, si on forme des complots, on vient vous attaquer, Dieu dit, cela ne viendra pas de moi. Dieu n'est pas contre nous, Dieu est pour nous. Amen? Et puis, vous savez, je pourrais prendre encore du temps. Avez-vous 2 minutes encore? OK. Mais si vous me donnez encore 2 minutes, vous allez voir. Lamentation 3, 32 à 33. Ici, ça dit, en parlant de Dieu, lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers, ou dans la Bible du Sommeur, ça dit, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Comme j'ai dit tantôt, quand on voit dans l'Ancien Testament que Dieu fait des choses, on comprend que la pensée juive, c'était que Dieu en tant que Dieu souverain, Dieu était au contrôle de tout. Mais en fait, les verbes qu'on retrouve dans la parole, c'est que Dieu permettait. Il permet la récolte de péché. Quand il y a un jugement qui vient, quand on a semé, puis là, on récolte la tornade, toutes ces choses-là, bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, on est en train de simplement récolter les choses, mais Dieu, il dit ici, il a compassion selon sa grande compassion. Ce n'est pas volontiers, ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie. C'est pas son cœur de voir ces choses-là arriver. Comprenez-vous? Dieu permet la récolte, la malédiction. Dieu permet toutes sortes de choses qui ne sont pas selon son cœur. Et devant le jugement, regardez bien dans Osée 11:8, ça dit, mon cœur, c'est Dieu qui parle, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Toutes mes compassions. Dieu ne veut pas ces choses-là pour ses enfants. En fait, en 1 Corinthiens 5:5, ça dit, un tel homme, en tout cas, et qu'est-ce que Dieu veut, là? Il veut qu'on soit sauvés. En parlant de ce texte-là. OK, c'est que là, vous dites, OK, je comprends, je sais, Dieu est bon, finalement, Dieu veut des bonnes choses pour nous. OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous devez prendre la décision. Vous devez choisir la bénédiction. Je vous invite à tourner là notre dernier verset aujourd'hui. Deutéronome 30, 19. Dieu a placé un menu devant nous. OK, on a un menu et on peut choisir. Deutéronome 30, 19, le dernier passage que je vais vous lire. Dieu a dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Dans le cœur de Dieu, Dieu aime tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. L'entrée au ciel, c'est la perfection, mais il réalise que personne de parfait. Donc, ce que nous devons faire, c'est lui demander tout simplement qu'on soit pardonné nos péchés. Quand on est pardonné, on a accès au ciel. Dieu ne nous offre pas une religion, Dieu ne nous offre pas une église pour nous sauver, il nous offre Jésus qui a payé la place pour nous sur la croix. C'est assez simple, c'est facile à entrer dans la famille de Dieu, c'est facile à être adopté dans la famille de Dieu. Il dit qu'on peut, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est facile, c'est simple, la seule chose que ça va nous coûter, c'est le mot « oui ». Oui, Seigneur, je reçois ton pardon. Oui, Seigneur, je me repens de mes péchés. Oui, je place ma foi en toi maintenant. Je bannis la crainte. Je tasse ces choses-là. Aujourd'hui, je veux m'engager. Je veux marcher avec toi jusqu'à temps que je me rende au ciel. Et là, Dieu, il dit, hey, je vais être avec toi. Je ne te laisserai jamais. Je ne vais jamais t'abandonner. Je vais t'emmener jusqu'au bon port et tu vas arriver au ciel dans ma paix, dans ma joie. Et oui, il y a plein de choses qui vont se passer sur la terre. Il y a plein de choses. Mais pour toi, mon enfant, je vais prendre soin de toi. Pour toi, j'ai une provision. Pour toi, j'ai la guérison. Pour toi, j'ai la joie. Pour toi, j'ai la paix. Pour toi, j'ai toute cette provision, le forfait divin du psaume 103. J'ai ça pour toi, mon enfant. Mais on dit, mais pourquoi qu'il y a tellement de personnes qui passent à côté? Bien, des fois, c'est juste, on pense que c'est de la religion. On pense que s'ils se font embarquer dans une affaire, une organisation. On pense toutes sortes d'affaires. Mais ce que Dieu dit, il ne dit pas « je vous offre une religion », il dit « je vous offre une relation vivante avec Jésus, mon Fils. Et je vous aime, je veux vous donner la vie éternelle. » Et pendant que toutes les têtes sont penchées ce matin, je vais vous inviter à pencher vos têtes. Et j'ai des amis sur l'Internet, des amis à la radio. Aujourd'hui, je veux vous lancer l'invitation pour ceux ici. Tout simplement, je vais vous demander tout simplement à regarder dans votre cœur et dire, est-ce que moi je suis prêt à dire oui à Dieu? Tout simplement, dire oui. Ça coûte pas beaucoup, c'est pas très fort, pas très difficile de dire oui. Mais ce oui-là transfère une personne d'un royaume à un autre, tout simplement. Et ensuite, le oui nous garantit une place au ciel. On va passer l'éternité avec Dieu au ciel, dans sa paix, dans sa présence. C'est merveilleux. Aujourd'hui, pendant que tout le monde a les têtes penchées et les yeux sont fermés, il n'y a personne qui regarde ici. Il y a juste moi et il y a Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ici? Je ne vous ferai même pas avancer en avant, mais juste en levant la main, dire, vous dites oui, oui. S'il y a des personnes ici qui veulent dire oui, merci, merci. Si vous dites oui, moi je veux le pardon, je veux la vie éternelle. Amen. Mais on va prier ensemble. Et pour nos amis sur l'Internet, je vais vous demander de prier avec moi, avec foi. Si vous croyez avec foi aujourd'hui, oui, je veux donner ma vie à Dieu, faites-le, priez avec moi. Je vais demander à tout le monde, pouvez-vous prier toute l'Église ensemble avec moi, priez avec moi pour encourager ceux qui veulent dire oui au Seigneur. Père éternel, je veux te donner ma vie. Je dis oui je reçois Jésus dans ma vie. À partir de ce jour, au nom de Jésus, je te demande de me pardonner, de me purifier. Je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter à vous lever. On va chanter. On va chanter le Seigneur. On va inviter aussi nos amis sur l'Internet à nous contacter. info@evqmedia.com. info@evqmedia.com. Ça va nous faire un plaisir de se réjouir avec vous. Bienvenue dans la famille de Dieu. C'est aussi simple que ça. La vie abondante que Dieu a prévue pour vous. Donc, on met de côté la crainte. On marche dans la foi. Chaque jour de nos vies, on vit la vie en abondance. Et on se réjouit. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous relèves. Quand on était à terre, on était brisés, on était peinés. Tu nous relèves. Tu es un bon Dieu rempli de compassion. Rempli de compassion. Tu n'es pas venu pour nous juger, mais tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous délivrer de toutes les œuvres de l'ennemi. Oh, merci Seigneur Dieu. Aujourd'hui, on peut mettre nos yeux sur toi, être encouragé et dire, tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que les circonstances sur cette terre. Tu es plus grand, tu es plus puissant, tu es plus merveilleux. Aujourd'hui, on tourne nos regards vers toi et on dit, t'es incomparable, Seigneur, t'es incomparable. Oh, de qui aurais-je craint? De qui aurais-je craint? Mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est bon. Alléluia, nous te louons, Seigneur. Amen. Je vais prier pour vous en terminant. Amen. Je vais vous lire un dernier verset que j'ai lu l'autre jour, mais ça me tente encore. Ésaïe 1, 19. Si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Dieu dresse devant vous un banquet, puis on est tous invités, tout le monde, vous êtes tous invités. Amen. C'est pour moi, c'est pour vous. Et aujourd'hui, je vais prier pour vous. Soyez bénis. Seigneur, je vais prier pour chaque personne qui s'est déplacée. Seigneur, je te remercie pour la parole qui était semée dans les cœurs. Maintenant, Seigneur, je m'attends à une récolte de foi dans cette église. Je prie, Seigneur, que les gens puissent bannir la crainte de leur vie. Ils disent, non, moi, j'en veux plus de cette crainte. Je prie que chaque personne puisse prendre la décision d'être renouvelée dans leur pensée avec des promesses qui viennent de toi. Je prie qu'ils puissent sortir de cette place encouragés, sachant qu'ils vont manger les meilleurs fruits du pays et qu'ils puissent vraiment expérimenter ta bénédiction en abondance. J'ai prié au nom de Jésus et je décrète sur chaque tête le shalom, rien de manquant, rien de brisé, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.